Ils étaient intouchables il y a tout juste quelques mois. Beaucoup sont en prison aujourd'hui. Hommes d'affaires, haut gradés, hommes politiques, le frère de l'ex-président, tous derrière les barreaux. Ils sont accusés de complot, de corruption, d'abus de pouvoir. Inédit, jamais l'Algérie n'a vécu un tel scénario. Le bal a été ouvert par l'arrestation de Ali Haddad, l'ex-patron du FCE, est tombé comme il est monté de manière fulgurante. Inattendu. Trois semaines auparavant, un échange téléphonique avec l'ex-premier ministre Abdelmalek Sellel pouvait faire croire qu'il restait les patrons du pays. Mais la crise est là, crise politique sur laquelle, dit Abdelhak Al-Amiri, docteur en économie, cette opération de justice n'aurait pas été possible.
S'il n'y avait pas eu de crise, non, ça n'aurait pas été possible, puisque c'est la crise qui a induit et forcé les décideurs à montrer un visage de plus de responsabilité, de plus de maîtrise de la situation. Parce qu'on a les droits au mur. La corruption a atteint un degré tel qu'elle est devenue endémique et ça peut détruire toute une économie.
Et voilà, l'impensable d'hier est devenu une réalité aujourd'hui. Plus qu'une mise derrière les barreaux, c'est un début de destruction de mythes, renchérit Lakhdar Maougal. Au micro de Souhil El Hachmi, le professeur en sciences sociales, auteur de plusieurs ouvrages, affirme qu'on assiste à la fin du système du culte de la personnalité. Un système qui a dominé la scène nationale ces 20 dernières années, traînant avec beaucoup de dégâts.
Après la décennie que nous avons subie du terrorisme, il a fallu inventer quelque chose et on a amené quelqu'un qui a drainé un mythe du jacobinisme bonapartiste. Et le résultat aujourd'hui de cette construction de ce mythe, le nouvel État algérien qu'on appelait l'État plus ou moins bonapartiste et bouteflikiste, il est là. La plupart des hauts fonctionnaires ont passé la nuit à Al-Harrach.
Les puissants tempes. Un retour de manivelle. Les voici là où ils avaient envoyé des dizaines d'Algériens croupir. Les années sont passées, leur puissance a atteint des limites jamais égalées. Et puis, la relégation.
C'est une relégation qui était destinée autrefois aux victimes de ces personnes-là qui envoyaient par les décisions, par des coups de fil à la justice. Je ne peux pas ou ne pas me rappeler qu'un certain nombre de hauts cadres de l'Algérie, dans les fins des années 90, ont été envoyés par M. Ouyahia en prison, dont certains sont morts en prison.
C'est donc le tsunami inauguré le 22 février qui est à l'origine de la défaite des puissants d'hier. Mais attention, insiste la milice, cette opération doit impérativement prendre en compte les risques sur le plan économique.
Toute crise politique engendre cette problématique-là, d'essayer de montrer qu'on est en train de faire du travail, en essayant de récupérer des éléments de patrimoine et aussi en essayant de dire qu'on est en train de travailler selon les observations, les principes et les objectifs de la population. Néanmoins, ce qui est difficile, c'est de sauvegarder l'intérêt de l'économie durant ces périodes-là. Si la période est longue, si on ne prend pas en considération l'intérêt de l'entreprise, de l'outil de production, l'intérêt de la population qui travaille, on risque une dilapidation du patrimoine productif du pays et on risque d'arriver à des situations où on détruit nous-mêmes notre appareil de production.
Mais comment est-on arrivé là? Comment est-ce possible? Autant d'affaires. C'est qu'il y a eu beaucoup d'argent dans le pays. Début des années 2000, le prix du baril flambe, $150 le baril. La trésorerie nationale engrange les milliards et suscite les appétits. Mais il y a plus grave. Il y a cet appel d'air de la part des responsables algériens. Maougal.
Il y a eu, semble-t-il, je ne l'aime pas du tout, et je cite Cheikh Ibrahim, l'idée qu'il y a eu 1500 milliards de dollars qui ont été dépensés. Et à ce moment-là, quand les partenaires de l'Algérie entendent un ministre en exercice dire cela et entendent la classe politique algérienne qui était en charge de la gestion de l'État dire que nous avons toutes les possibilités, nous ouvrons les portes aux investissements, venez faire... Eh bien, ça aiguise les appétits. Et ça crée des complicités. Et cette complicité a aggravé le délitement non seulement de l'État, mais elle a aggravé aussi le fait du relâchement total sur le commerce extérieur.
Une richesse tombée du ciel, certains diront tirée du sous-sol. Peu importe, l'occasion est ratée, ce qui aurait pu faire décoller le pays devient alors une malédiction.
L'Algérie n'a été jamais aussi riche qu'elle l'est devenue ces dernières années, et surtout ces deux derniers mandats. C'est cette convoitise qui fait que finalement, les Algériens voient les puissances étrangères s'enrichir de plus en plus, voient les entrepreneurs étrangers s'enrichir de plus en plus, voient le capital se développer, et ils n'en profitent pas.
Du vol à grande échelle, un vrai pillage et derrière une disparité qui s'installe. Elle était devenue insoutenable, des richesses ostentatoires avec en face des misères tiers-mondistes.
Il y a des Algériens dans des coins isolés, vivant dans une misère noire, atroce, dans la saleté la plus, et dans le chômage et dans la misère. C'est cette disproportion, c'est ce décalage entre la polarité de la richesse qui n'a jamais atteint le niveau qu'elle vient d'atteindre et la paupérisation qui s'est étendue dans les catégories sociales les plus basses de la société.
Et maintenant, au-delà des procès en cours, une question taraude les Algériens. Peut-on récupérer cet argent? Oui, répond Abili, du moins en grande partie, à commencer par celui qui se trouve toujours dans le pays. Là, l'opération devrait être facile.
Le national, c'est très facile. On est au niveau des comptes bancaires, au niveau des crédits bancaires, où l'information se trouve chez les banques, au niveau de la comptabilité de l'entreprise et son patrimoine, au niveau des marchés qu'elle a eus, au niveau des prix de réalisation standardisés au mètre carré. Les experts comptables arriveront facilement à identifier plus de 90% des ressources qui ont été détournées par les entreprises. Au niveau national, ça n'est pas très très compliqué à identifier ça, parce qu'on a une trace de sa provenance. Si c'est une malversation, maintenant si l'informel travaille avec l'informel, cet argent, on ne peut pas l'identifier.
Pour l'argent qui se trouve ailleurs, c'est encore possible, mais avec un peu plus de complications. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opération d'identification à faire, mais aussi parce qu'il faut faire vite.
Ça, il faudrait le faire très rapidement pour ne pas laisser le temps à ces gens-là de les transférer. Il faut mettre en place une commission et très très rapidement au niveau d'un ministère pour essayer de les identifier et les bloquer. Premièrement, on a un début de société d'expertise dans ce domaine spécialisé en finance. On a des spécialistes algériens qui peuvent faire une partie du travail. Et on a quelque chose, un instrument super super efficace qui est un institut spécialisé au sein des Nations Unies, dont le travail est de récupérer l'argent pour des pays comme le nôtre, où l'argent a été dilapidé par des anciens dirigeants. Et donc, utiliser cet institut a beaucoup d'expertise, et d'ailleurs, il l'a utilisé pour aider les Tunisiens et les Égyptiens à récupérer une grosse partie. Si, par la suite, on souhaite aller plus profondément dans les choses, on peut solliciter des sociétés d'expertise, mais il faut faire attention, étrangères. J'ai lu sur la presse, les experts, ce que disait l'ancien ministre du Commerce, etc. Ça pourrait tourner autour de 300-350 milliards de dollars.
350 milliards de dollars.